Merci à Liza et à Sébastien pour leurs présentations respectives auxquelles je vais apporter la mienne. Alors moi, je vais vous parler d'une structure qui est la plus petite des trois. Donc une petite structure donc qui est située à Rennes et qui n'est pas sans avoir une certaine complémentarité avec en particulier les collections d'archives de l'INHA qui viennent d'être décrites, puisque les archives qui sont concernées aux archives de la critique d'art sont pour l'essentiel des archives qui couvrent une chronologie qui débute au milieu du XXe siècle. Donc là où plus ou moins les archives que concerne la bibliothèque de l'INHA s'arrêtent, finalement les archives de la critique d'art commencent. Alors ces archives de la critique d'art, je dirais tout d'abord qu'elles sont une structure assez atypique, puisque elles sont à la fois un centre donc qui conserve des archives, et on va y revenir, mais elles sont aussi une bibliothèque de référence pour l'art contemporain. Elles sont aussi un lieu d'animation du débat autour de l'écriture et de la critique de cet art contemporain. Elles sont aussi un lieu d'édition, puisque nous éditons une revue. Et elles sont aussi finalement un lieu qui permet le dialogue entre des ressources, des chercheurs, des critiques, des commissaires d'exposition, des artistes qui, chacun pour des raisons différentes finalement, viennent consulter les documents qui sont conservés à Rennes. C'est donc un lieu dédié à la critique d'art, une collection patrimoniale, une bibliothèque de référence, un espace de recherche et de débat qui a été fondé en 1989 à l'initiative de quelques membres de l'Association internationale des critiques d'art, dont Jean-Marc Poinceau, qui était alors enseignant à l'université de Rennes et qui sera un petit peu la cheville ouvrière pour installer ces archives, trouver le lieu qui va donc permettre de conserver les archives de la critique d'art, avec parmi les premiers donateurs importants de leurs archives des critiques tels que Pierre Restany, Michel Ragon, Frank Popper, que vous connaissez. La création de ces archives se fait sous la forme d'une association régie par la loi 1901. Cette association, elle va exister jusqu'en 2014, date à laquelle elle va se transformer pour devenir ce que l'on appelle un GIS, donc un groupement d'intérêts scientifiques, qui va associer trois partenaires tutélaires. D'une part, l'université Rennes 2, avec laquelle les archives ont toujours entretenu un lien étroit. L'Institut national d'histoire de l'art, qui est devenu propriétaire des collections à cette date, et l'Association internationale des critiques d'art, qui établit donc le lien avec la communauté qui est celle des critiques et qui est donc à la base de l'existence même de cette structure. C'est donc, je le disais, un centre de ressources qui est finalement assez unique, organisé autour de la critique de l'art contemporain, avec donc ces trois entités en quelque sorte, la partie des collections patrimoniales, une bibliothèque d'ouvrages et de périodiques extrêmement riches, ainsi qu'une revue qui est une revue semestrielle et qui permet véritablement d'avoir un point de vue sur l'actualité éditoriale francophone concernant l'art contemporain. Alors, je vais faire comme les présentateurs précédents, quelques chiffres. Alors, nous n'avons que presque 2 km de linéaire d'archives dont nous sommes cependant fort fiers. 79 fonds d'archives, 410 fonds d'écrits. La distinction ici étant que les fonds d'écrits sont des fonds d'imprimés, de textes imprimés qui sont ouverts par des auteurs en activité qui potentiellement peuvent dans un second temps nous donner des archives, mais en tout cas on a déjà donc un fonds d'écrit qui est ouvert et qui nous permet d'avoir un ensemble de textes, ouvrages et articles parus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces auteurs sont souvent des auteurs très jeunes, donc beaucoup d'entre eux déposent leur candidature pour être membre de l'Association internationale des critiques d'art pour la section française, et les écrits qu'ils produisent ensuite donc commencent à constituer un fonds d'écrit au sein des archives de la critique d'art. Au niveau du volume donc d'ouvrages catalogués, on est autour de 59 000 ouvrages. Je le disais, une collection très importante de périodiques qui sont aussi bien des périodiques anciens que récents. Environ 50 000 photographies, plus de 300 documents audiovisuels et environ 1 000 archives orales. Alors la typologie des documents, elle est assez variée. Donc vous en avez ici un petit aperçu. Hein, donc on retrouve un petit peu la typologie qui était énoncée tout à l'heure. Des documents de travail, des tapuscrits d'ouvrages ou d'articles. Des envois d'artistes, des coupures de presse, des cartons d'invitation pour des expositions, etc. Du point de vue de la typologie des documents visuels, donc on a beaucoup de tirages noirs et blancs, mais aussi un très grand nombre de diapositives qui sont qu'on évalue au nombre de 30 000, mais qui restent les fonds les plus inaccessibles pour l'instant, puisque ces diapositives n'ont pas été encore numérisées, donc elles restent difficiles d'accès, à la différence des tirages qui le sont davantage. Donc, des fonds importants au niveau photographique, et puis donc ces fonds audiovisuels et sonores, qui sont pour beaucoup des cassettes, comme vous le voyez. On a eu la chance de pouvoir développer quelques programmes de numérisation. Donc on a commencé à numériser certains fonds audiovisuels qui ont été ensuite décrits et qui sont donc accessibles via le catalogue. Et de la même manière, on a pu commencer, grâce à un partenariat avec l'INHA, à réaliser la numérisation d'un ensemble de documents sonores qui sont pour beaucoup des entretiens qui ont été réalisés par des critiques avec des artistes. J'ai ici indiqué un petit résumé des missions et des activités des archives. Donc des missions habituelles qui sont celles de la collecte de fonds. Cette collecte, elle est placée un petit peu sous la houlette d'un comité scientifique et culturel qui est composé de critiques et de représentants du milieu de l'art contemporain qui sont un petit peu les relais auprès de potentiels donateurs. Donc une démarche de collecte, ensuite donc évidemment une démarche de conservation, de catalogage et de valorisation des fonds. Pour l'essentiel, donc il s'agit de fonds de critiques, mais nous avons aussi quelques fonds de galeries qui nous sont arrivés. Plus récemment, l'entrée le plus important de ce point de vue étant l'arrivée du fonds Jennifer Flay en 2015. Quelques fonds de centres d'art également, là aussi, sont arrivés aux archives, souvent parce que des critiques avaient entendu qu'un centre d'art était en train de fermer, et donc il était nécessaire finalement de trouver un lieu pour accueillir des archives. On a ainsi recueilli un certain nombre d'archives, dont celle du centre d'art de Kerguénec dans le Morbihan, qui a fermé de façon un peu brutale, et donc nous conservons l'ensemble de ces archives. Je le disais, donc la revue Critique d'art, qui est véritablement un élément important et structurant de notre présence au sein du débat sur l'art contemporain. revue qui, outre donc les recensions qu'elle publie, organise aussi des rencontres publiques avec de jeunes critiques, des artistes. Et puis, un petit peu comme avec ce que disait Sébastien tout à l'heure, une importance aussi de l'articulation entre les ressources et l'activité de recherche. Cette activité de recherche, elle se déroule évidemment en premier lieu avec le lien très étroit qui existe avec l'université Rennes 2. Et donc, nous avons des étudiants de master qui ont des séminaires qui prennent appui sur les collections, et évidemment aussi des doctorants, et puis beaucoup de chercheurs qui viennent pour consulter les archives. Donc diverses activités liées à la recherche, des séminaires, des journées d'études, des colloques qui sont régulièrement organisés. Également des programmes de recherche qui sont menés en partenariat avec différentes institutions, des partenariats avec l'Institut National d'Histoire de l'Art, avec la Terra Foundation pour certains projets, dont par exemple récemment un projet de séminaire sur la critique d'art américaine et le transfert vers l'Europe. Un lien également avec la Maison des sciences de l'homme de Bretagne, qui nous permet là aussi de développer des projets plus locaux. Des partenariats plus pour la valorisation avec des institutions au niveau local, telles que le FRAC Bretagne ou le Musée des Beaux-Arts de Rennes, mais aussi au niveau national avec diverses institutions. Et puis aussi une articulation de notre activité avec des artistes qui viennent travailler sur nos ressources et qui partent de nos ressources finalement pour produire des œuvres. Et je vous montrerai un exemple dans un instant. Donc, dans les programmes de recherche, un programme très important qui a débuté récemment, en septembre 2015, qui est un programme qui va se dérouler pour 3 ans, qui est un programme que nous avons intitulé Prisme, avec pour sous-titre la critique d'art Prisme des enjeux de la société contemporaine. C'est un programme, en fait, qui vise faire un travail important sur les archives de l'Association internationale des critiques d'art. Et ce programme donc va permettre de cataloguer, de décrire, de numériser l'ensemble des documents donc de l'AICA. Et ce, grâce au soutien de la Fondation de France. Donc là, sont impliqués des doctorants, des étudiants de master qui travaillent selon des thématiques. Par exemple, la première thématique que nous avons lancée pour cette année étant la thématique de la relation critique d'art et médias, qui s'avère une thématique extrêmement riche. Du point de vue de la valorisation, quelques exemples. Un moment important qui a été l'exposition qui a été d'abord présentée à l'INHA en 2015, intitulée « Mémoire croisée, dérives archivistiques ». Cette exposition a ensuite été reprise au FRAC Bretagne. Je précise à cette occasion que nous n'avons pas de lieu d'exposition dans laquelle nous pouvons valoriser nos archives. Donc nous essayons justement de prendre appui sur divers partenariats pour pouvoir faire cette activité de valorisation. Dernière valorisation très récente, une exposition qui se tient au Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne et dans laquelle nous présentons un ensemble de documents qui ont été reproduits en fac-similé, que vous pouvez apercevoir ici, par exemple, une photographie représentant une César en train de réaliser une expansion en 1967, qui a été donc mise en regard d'une œuvre originale ou bien encore un texte de Martial Reiss pour une exposition à Milan en 1967, mis en regard là aussi de l'œuvre de Reiss. Donc, nous sommes très régulièrement et de plus en plus, et là aussi j'anticipe un peu sur la discussion, nous sommes de plus en plus sollicités par des institutions pour présenter des archives, que ce soit des documents originaux ou des facsimilés, mais on voit véritablement qu'il y a un intérêt de plus en plus fort pour utiliser des archives dans les expositions aujourd'hui. Et puis, ce que j'évoquais également, donc, de jeunes artistes qui viennent et qui, finalement, s'emparent en quelque sorte de nos collections pour produire des œuvres, comme ici la jeune artiste Camille Bondon, qui a passé beaucoup de temps dans les collections, dans les rayons de la bibliothèque et des archives, et qui a sélectionné un ensemble de documents pour essayer d'évoquer toutes les écritures marginales des critiques. Comment un critique annote un livre qu'il lit. Donc toute cette écriture marginale, eh bien, elle s'en est emparée, et à partir de cela, elle a réalisé une performance qu'elle a présentée donc en novembre à Rennes, et qu'elle a depuis présentée à d'autres reprises. Pour ce qui est de l'accès, donc de la consultation des collections, je vous invite à consulter le site internet dont je vous ai indiqué l'adresse. Donc, grâce à cela, hein, vous avez accès aux différentes ressources documentaires, donc un catalogue en ligne, un guide des fonds d'archives, donc dans lequel vous allez pouvoir retrouver les éléments, les documents qui sont catalogués. Donc je ne vais pas trop développer sur cet aspect-là pour ne pas prendre trop de temps. Je voudrais plutôt j'avais fait une petite sélection de documents, et j'avais plutôt envie de vous montrer un petit peu des choses que nous avons, et avec un clin d'œil évidemment aux archives concernant l'art américain. Donc du point de vue des collections, donc la bibliothèque, elle est composée à la fois d'un fonds qui est constitué par des bibliothèques des critiques. Donc nous avons des ouvrages qui appartenaient aux critiques et qui du coup constituent une bibliothèque d'une grande richesse, et cette bibliothèque, elle continue à s'accroître grâce à la revue Critique d'art, puisque les ouvrages recensés dans Critique d'art agrandissent le fonds de référence. Au niveau des périodiques, donc des périodiques anciens, comme je le disais, tels que l'Opus International, qui est arrivé par le biais du fonds Alain Jouffroy, ou encore d'autres fonds, hein, puisque on a aussi via le fonds Gassiot-Talabot une partie d'Opus International. Donc les critiques qui ont été acteurs de certaines revues ont fait entrer des revues qui sont aujourd'hui des revues mortes, ou comme par exemple la revue Artitude qui a été fondée par François Pluchart. Alors les archives, donc, elles sont constituées de documents de travail. Donc, vous avez ici un petit aperçu, donc qui revient à ces typologies assez larges, y compris des objets, là aussi, hein, comme a pu l'évoquer Liza. Des notes pour la préparation d'un entretien, par exemple, pour dans le fond Catherine Framblin, des tirages donc qui renvoient à des performances d'artistes, qui sont donc des tirages qui avaient été envoyés pour de la documentation, hein, pour le travail des critiques. Voilà, donc quelques photographies, hein, qui renvoient à des expositions historiquement importantes, comme cette Oldenburg Room présentée à la galerie Sidney Janis en 64. Ici, une exposition qui est l'exposition d'ouverture de la galerie John Gibson en 1967, des expositions d'architecture marginale qui a été présentée à Paris en 76 et qui a soulevé une polémique, hein, puisque cette exposition qui était présentée au Centre culturel américain a dû fermer à la demande de l'ambassade pour réouvrir ensuite au musée d'art décoratif. Donc ça, c'est via le fonds Don Foresta qui a été responsable du centre culturel américain à Paris. On est très content d'avoir découvert assez récemment quelques photographies de la dernière exposition d'Andy Warhol en 1987 à Milan. Je le disais, le fond de galerie, comme la galerie Jennifer Flay, où là on a un ensemble de documents extrêmement riches sur l'activité des expositions qui ont joué un rôle important à Paris hein, dans les années 90. Et puis, voilà, des choses un peu exceptionnelles pour nous, comme des échanges de Pierre Estany avec Alain Capro, donc une archive qui révèle les liens qui ont existé entre certains critiques et des artistes. Alain Capro envoyant des scripts de ses happenings à Estany, ou ici un échange de cartes postales envoyées par Gina Pan à François Pluchart, hein, qui sera un des critiques qui va la défendre largement. Correspondance d'artistes, là aussi, hein, la description du projet de la première performance de Gina Pan en 1971, l'escalade non anesthésiée. Donc elle envoie ce courrier à François Pluchart, dans lequel elle décrit la performance qu'elle va réaliser. Performance qu'elle documente avec un ensemble de photographies, dont cette photographie d'un format atypique qui est un véritable travail de montage qui prépare en fait la réalisation d'un constat d'état qui est aujourd'hui conservé au Musée national d'art moderne, avec voilà toujours cette présence des recto verso hein, qu'on a déjà vu tout à l'heure avec la présentation de Liza. Donc c'est le descriptif de la performance par de la main de Gina Pan au dos donc de la documentation photographique. Un agenda de Pierre Estany, par exemple celui de l'année 1964 où on voit que il a rendez-vous au Domago et quelques jours après il se retrouve à la Biennale de Venise où il doit rencontrer Guido Lenocchi, etc. Donc on a tous les agendas de Pierre Estany qui sont évidemment là aussi des objets extrêmement précieux. Et puis je termine sur justement cette année 64, puisque l'intérêt aussi des archives hein, de pouvoir croiser les ressources des différents fonds autour d'un événement pour véritablement en écrire l'histoire. Et donc 1964, vous le savez, hein, ce moment en particulier où Rauschenberg reçoit le prix de la Biennale de Venise, la polémique qui s'ensuit, et donc nous avons un ensemble de documents qui nous permettent de revenir un petit peu sur l'histoire de ce moment particulier, et aussi un petit peu la petite histoire, puisque là vous avez donc des coupures de presse, mais aussi une lettre de Pierre Estany à Léo Castelli, le 27 décembre 1964, cette lettre étant passionnante, puisque on a le point de vue de Pierre Estany sur la situation française dans le contexte des relations entre l'Europe et les États-Unis, et donc là on découvre un petit peu un point de vue qui permet de relire en quelque sorte une histoire plus officielle de cette année 1964. Et je termine avec une autre lettre qui est une lettre de Greenberg à Pierre Estany quelques mois donc après l'échange avec Léo Castelli. Et lettre très intéressante aussi, puisque Greenberg fait un petit peu le récit de la perception qu'il a du contexte américain avec justement cette arrivée hein, du pop against l'expressionnisme abstrait. Donc à travers voilà ces lettres, il y a une histoire de l'art qui peut se réécrire aussi. Voilà, je termine là-dessus pour qu'on ait quand même un peu de temps de discussion.